France Inter. Le 18-20. Claire Servagen.
Passe sanitaire, passe vaccinale, pourquoi tant de haine? Cela fait des mois maintenant que des médecins et plus globalement des soignants sont pris pour cible parce qu'ils défendent et pratiquent la vaccination contre le Covid. Et ce ne sont pas les seuls à être victimes du comportement d'un certain nombre d'opposants au vaccin. Des élus locaux et nationaux reçoivent des menaces, des insultes et sont agressés. Les derniers débats parlementaires ont encore attisé la haine de ceux qui ne veulent pas du pass vaccinal. Cette semaine, le député marcheur de Saint-Pierre-et-Miquelon, Stéphane Clairaut, a été pris pour cible devant chez lui par une foule hostile qui lui a lancé toutes sortes de projectiles à la figure. Et ce n'est pas le seul, loin de là. Plus de 300 plaintes pour menaces de mort ont été déposées par des élus nationaux. Certains ont vu leur permanence taguée, mise à sac, incendiée. D'autres ont même vu leur domicile, leur véhicule dégradé. Le Covid a semble-t-il décuplé ce genre de comportement, car malheureusement tout cela n'est pas totalement nouveau. Cela fait même plusieurs années que les élus, et notamment les maires, font face à des violences. Mais le Covid a joué là aussi un rôle de révélateur. Comment l'expliquer, surtout vu l'ampleur du phénomène, pourquoi tant de haine? Avec nous pour en parler ce soir au téléphone sonne Jeremy Ward, qui est sociologue, chercheur à l'INSERM, spécialiste des comportements à l'égard des vaccins, justement. Bonsoir Jeremy Ward.
Bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous. Dans ce studio, Martial Foucault, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur du CIVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po. Vous êtes l'auteur d'un essai intitulé « Maire au bord de la crise de nerfs, la démocratie locale peut-elle survivre ?» Je précise que nous serons en ligne au cours de cette émission avec des élus qui ont été directement visés. Alors surtout, n'hésitez pas à nous appeler.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Pour commencer, nous partons à Mérignac. Bonsoir Claire.
Bonsoir.
Vous souhaitiez intervenir pour parler de ces tensions en cours dans la société?
Oui, un simple témoignage. Moi, j'étais à Bordeaux Centre samedi après-midi. J'allais juste faire une course avec mon fils de 11 ans. On a croisé le cortège des manifestants. Ils ont fait des bêlements contre nous, des bêbes, ce qui était particulièrement agressif alors qu'on ne demande rien, on ne fait que passer, on est de simples citoyens. J'ai trouvé ça extrêmement violent et agressif parce que ce sont des gens qui défendent les libertés, c'est leur droit, j'ai aucun souci sur le droit de manifester, le droit d'exprimer ses opinions. Pourquoi s'en prendre à des simples passants? Je trouve que c'est intolérant alors que ça va même à l'opposé des idées qu'ils défendent en fait. Puisque quand on défend la liberté elle est valable pour tous. Voilà, et j'imagine qu'un élu, un représentant de l'État, dans ce genre d'ambiance doit être particulièrement visé et je trouve ça assez compliqué pour eux.
Claire, ça fait quand même un petit moment déjà que cette crise sanitaire a commencé. Vous avez l'impression que les choses s'enveniment, que la situation est de plus en plus tendue?
Moi, j'ai l'impression que les gens ont le droit aujourd'hui d'être agressifs et que ça devient légitime quand on prend des positions contraires à celles de l'État, ce que je trouve assez surprenant. Les gens aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont de plus en plus le droit d'agresser les autres parce que peut-être eux-mêmes se sentent agressés par les décisions qui sont prises après tout, mais je trouve que ça devient quelque chose de légitime et c'est ce que je trouve dangereux.
Merci beaucoup Claire pour ce témoignage, pour cette entrée en matière pour cette émission. Martial Foucault, vous qui êtes politologue, directeur du CIVIPOF, peut-être une réaction à ce que dit Claire concernant cette ambiance générale assez délétère.
Oui, non, le témoignage de Claire est assez en fait symptomatique d'autres témoignages, c'est-à-dire le rapport que l'on peut avoir avec des modes d'expression publics. On est dans l'espace public. Ce que votre auditrice indique, c'est une forme à la fois de surprise et la tonalité de ces mouvements. Qu'ils soient ici mouvement anti-vax, mais on a connu au cours de l'hiver 2018 avec le mouvement Gilets jaunes, c'était ce rapport totalement à la fois incompris dans le mode d'expression, les modalités d'expression, mais le mais est très important, le sentiment que parfois les revendications pouvaient paraître légitimes, et on a souvenir quand même, pendant le mouvement des Gilets jaunes, beaucoup de personnes étaient descendues dans la rue pour la première fois. C'est pas le cas pour le mouvement anti-vax, on voit bien que c'est quelque chose qui est beaucoup plus serré, et donc la perception qu'ont les citoyens de ces mouvements, c'est pas tant sur la revendication première, c'est le mode d'expression. Et donc l'agressivité dont parlait Claire à l'instant, on le retrouve dans presque tous les mouvements sociaux. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, l'apprentissage que les citoyens se font aujourd'hui d'une évolution, d'une transformation des mouvements est à la fois nouveau. Et chacun se retrouve un peu désemparé sur la manière dont on doit réagir. Parce que, au fond, ce que dit votre auditrice, c'est si ce mouvement s'était déroulé sans prendre à partie le citoyen lambda qui se promène dans le centre de Bordeaux, ça ne posait pas de problème. Et on voit bien ici la limite du mouvement. C'est-à-dire que le mouvement, on est quand même en 2022 dans cette culture du clash. Et donc, il faut montrer un peu plus que l'on souhaiterait
pour être entendu. Tu penses pas comme moi, donc je te méprise. Et
exactement.
Voilà, hein, et je te respecte pas en même temps. Jeremy Ward, vous qui êtes sociologue et qui vous intéressez tout particulièrement à cette question des vaccins, de l'acceptabilité des vaccins, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre?
Oui, pour prolonger l'analyse de Martial, je pense que ça traduit aussi le fait que le mouvement anti-pass sanitaire a beaucoup évolué entre son émergence en juillet et maintenant. En fait, on a vu au fur et à mesure, d'abord, au début, c'était un mouvement qui était assez large, dans lequel on avait notamment des centrales syndicales, des acteurs qui ont justement une habitude, enfin plus d'habitude de manifester, et puis surtout des revendications moins radicales, avec souvent une critique du pass sanitaire comme modalité d'intervention ou des critiques sur la manière de le définir. Et au fur et à mesure, on a vu le mouvement en fait se resserrer autour des personnes qui rejettent ce vaccin, voire même la vaccination en général. Il y a une sorte de radicalisation presque par sélection du mouvement, et ça se traduit aussi dans à la fois dans les revendications et puis aussi dans les attitudes à l'égard des passants. Après, il y a un deuxième élément à prendre en compte, qui est que la vaccination, c'est quand même une intervention médicale, ça touche au corps, ça touche au soi, et donc dans cette perspective là le fait de lutter contre le pass sanitaire ou le pass vaccinal, c'est vraiment, enfin comment dire, ça fait il y a une dimension beaucoup plus incarnée, beaucoup plus intime, beaucoup plus profonde, qui fait que pour beaucoup, on voit des émotions vraiment très fortes, notamment dans un contexte dans lequel la vaccination est élargie aux enfants. Et dès le début des mouvements anti-pass sanitaires, on avait vu que parmi les revendications, il y avait protéger nos enfants contre l'obligation vaccinale de nos enfants, etc. Et donc ça aide pas non plus à ce que le mouvement mette en avant une acceptabilité, une respectabilité et s'éloigne des actions et des revendications plus radicales.
Par rapport à une question médicale, est-ce qu'on a déjà vu dans le passé des manifestations de ce genre-là, ou c'est une première ?
Alors ça, c'est très intéressant. Alors des manifestations de grande ampleur, voire même très violentes autour de la vaccination, on en a vu beaucoup dans beaucoup de pays. Alors les plus connues sont celles en Angleterre durant la deuxième partie du 20e siècle, du 19e siècle, où on avait vraiment quasiment des émeutes. Pareil au Brésil au début du 20e siècle, aux États-Unis. Par contre, la France n'a jamais connu de grands mouvements anti-vaccins, de grands mouvements de critique des vaccins. Paradoxalement, on dit beaucoup aujourd'hui que la France est un des pays les plus hésitants à l'égard des vaccins, mais c'est une réalité qui est très récente. Historiquement, le mouvement anti-vaccin a toujours été très très faible en France.
C'était le pays de Pasteur et on acceptait globalement la vaccination, c'est ce que vous nous dites ?
Pas exactement, non. C'est surtout que même si on était dans le pays de Pasteur et qu'on a eu des politiques vaccinales, on a eu des grandes campagnes de vaccination, il y a aussi eu le fait que lorsque des obligations vaccinales ont été mises en place, elles n'ont pas réellement été appliquées, et finalement l'État a eu la main légère sur la question des vaccinations, et donc en quelque sorte il n'y a pas eu besoin pour les personnes qui ne voulaient pas se vacciner d'aller dans la rue pour lutter pour avoir ce droit-là. Les obligations vaccinales ont toujours eu des trous dans la raquette très tôt, et encore, ça c'est même sans prendre en compte le fait que avant la Seconde Guerre mondiale, de toute façon il n'y avait pas d'obligation de vaccination.
Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Beaucoup d'agressions, beaucoup de menaces depuis l'été dernier, depuis la mise en place du pass sanitaire, et encore plus avec le pass vaccinal. 162 parlementaires agressés, menacés ces derniers mois. C'est absolument énorme. L'un d'eux est en ligne avec nous. Bonsoir, Pascal Bois.
Bonsoir à vous.
Vous êtes député La République En Marche de l'Oise, de Chambly. Que vous est-il arrivé? Vous avez été victime d'un incendie volontaire chez vous?
Oui, c'est ça exactement. Oui, dans la nuit du mardi 29 au tout mercredi. Voilà, j'ai été réveillé à 3h du matin par les pompiers qui sont venus vérifier tout simplement au départ si le véhicule qui était derrière dans le jardin avec le haut vent et le garage, si c'était bien chez moi. Et naturellement là-dessus j'ai validé et j'ai rapidement pensé que ça pouvait être un acte criminel, voire un attentat, puisque on a découvert après, dans un deuxième temps, à l'extérieur, sur le mur extérieur, qu'il y avait deux tags. Un tag qui disait « voter non » et puis un autre qui disait « ça va péter ». Alors donc, on peut supposer que bon, ça va péter si c'est au premier degré. Est-ce qu'on parle de la voiture qui aurait pu, en effet, avec son essence, avec ses batteries électriques, comme un hybride. Enfin bon, on peut tout imaginer là après.
En tout cas, pour vous, c'est le message est clair, c'est en lien avec la situation et le vote de la loi.
Ah oui, je crois que...
Il y avait eu des menaces?
Il y avait eu une première menace au mois de novembre. J'avais reçu un courrier à ma permanence, c'est ma collaboratrice qui s'est forcément retrouvée en émoi, puisque c'est elle qui a ouvert le courrier, un courrier qui était accompagné d'une balle. Alors, sur ce... Concernant ça, je n'avais pas été le seul. J'avais pas l'exclusivité, puisqu'il y avait 6 parlementaires de l'Oise qui avaient eu le même courrier avec une balle. Et ça, c'était pour la prolongation du pass sanitaire à ce moment-là. Mais c'était après le vote du pass sanitaire, d'ailleurs. Bon, en revanche, concernant ce qui a été fait chez moi, l'acte criminel, c'était en préambule du vote, quoi. C'était une intimidation avant le vote.
Et comment on réagit dans ces cas-là, Pascal Bois?
Écoutez, il y a forcément de la colère par rapport à l'irresponsabilité de ce qui a été fait. Se dire que, bon, ça pouvait atteindre naturellement nos vies, hein, avec ma femme, puisque nous dormions, c'était à 3h du matin, je vous le rappelle. Par nature, je regarde aussi le bon côté parfois des choses, même dans ces cas-là, et c'était de me dire heureusement qu'une voisine à l'arrière de chez moi, dans la rue à l'arrière, souffrant d'une insomnie, a entendu les pneus exploser et a pu appeler les secours. Parce que sinon, véritablement, ça aurait gagné toute cette dépendance, et après, dans la continuité, il y a la maison, quoi, qui est à quelques mètres.
Alors, on sait qu'il y a de plus en plus souvent des agressions à l'égard des élus. Je crois que vous avez été élu local, vous avez été élu dans votre commune avant d'être député. Vous aviez imaginé que ça pouvait atteindre un tel palier?
Non. D'ailleurs, bon, quand on est un élu local, oui, je l'ai été, oui, en effet, pendant pratiquement 20 ans. Non, il n'y a pas de sujet de crispation qui peuvent atteindre quand même normalement. Il n'y a pas de sujet. Voilà, t'as pas une hystérisation comme là on peut le voir par une toute petite frange quand même. Je tiens à le rappeler, de la société tout de même.
Vous en avez évidemment parlé avec vos collègues députés à l'Assemblée, parce que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation. Vous êtes même nombreux. Comment il faut réagir après, au niveau national maintenant? Quelle réponse collective apporter à tout ça?
Alors déjà, il y a les premiers gestes qui sont naturellement le soutien et de faire corps. Et ça, je peux dire que véritablement, de par mes collègues, on se serre les coudes davantage encore dans ces cas-là.
Toutes tendances confondues, on est d'accord?
Là, je mettrais un bémol. Voilà, en tout cas, j'étais ravi quand même que cette semaine, le président de l'Assemblée est arrivé en signe de concorde avec tous les présidents de groupe pour ouvrir les questions au gouvernement. Mais c'est vrai que pendant une dizaine de jours, je trouvais qu'il y avait un silence assourdissant de la part des présidents de certains groupes politiques représentatifs à l'Assemblée. Bon, maintenant, ils s'expriment un peu. J'aimerais entendre un peu plus les candidats à la présidentielle aussi. Je trouve que ça serait bienvenu aussi, parce que c'est véritablement notre démocratie qui est écorchée. Après, vous me parliez des mesures. Ben, vous l'avez entendu, bon, dès le jour de mon attentat, là, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont envoyé télégramme au préfet et nos permanences et nos domiciles sur l'ensemble du territoire sont l'objet d'une vigilance prononcée, quoi, très accentuée par rapport déjà à l'accoutumée.
Une dernière question, Pascal Bois. Est-ce que ce genre d'acte, de menace, d'agression, peut amener certains d'entre vous à baisser les bras, à choisir de ne pas se représenter? Est-ce que vous avez entendu ça parmi vos collègues députés, par exemple?
Oui, je comprends la question, on peut se la poser, c'est vrai, mais pour le moment, en tout cas, je ne vois personne qui soit dans le renoncement par rapport à ça. Même si tout le monde s'accorde à dire qu'on n'est pas élu pour ça, et que dans notre démocratie, eh bien, il faut respecter l'expression des urnes, il faut respecter les élus, quels qu'ils soient, hein, je ne parle pas que des parlementaires, on sait aussi, même parfois, pour le maire d'un petit village, eh bien, il peut être aussi sujet à des actes aussi par un concitoyen qui ne va pas être d'accord pour tel sujet ou tel autre. Mais en tout cas, je ne vois aucun renoncement par rapport à ça, en tout cas pour le moment. Moi, ça serait d'ailleurs, je le dis à l'envi, mais c'est vrai que ces actes-là, c'est presque contre-productif par rapport à ça, puisqu'on ne peut pas renoncer.
Bien sûr.
À ces intimidations, parce que sinon c'est tendre l'autre joue, c'est permettre de continuer de tels actes criminels par une bande de voyous, quoi, une petite bande de voyous qu'on a sur nos territoires et qui veulent pas respecter la démocratie et ses règles.
Merci Pascal Bois, député de l'Oise. Merci beaucoup d'être intervenu dans ce téléphone sonne. Martial Foucault, j'aimerais bien que vous réagissiez à ce témoignage de ce député.
Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y a deux dimensions. Il y a à la fois le phénomène, est-il conjoncturel, ou est-ce qu'au fond notre démocratie a enfanté de ces actes de violence, d'agression, pas simplement physique, on a aussi des agressions symboliques qui sont tout aussi violentes, ou en tout cas perçues comme violentes par un certain nombre d'élus, plutôt les élus locaux. Et puis il y a une deuxième dimension qui est peut-être là de l'ordre dans une séquence particulière, et je crois que le député Paul Bois l'a évoqué. C'est-à-dire quand il dit « j'aimerais entendre les candidats à l'élection présidentielle prendre des positions », là on peut s'interroger parce que au fond, est-ce que on peut dire il y a une réponse législative? Alors on irait sur un nouveau train de mesures, peut-être plus répressives à l'endroit des auteurs de ces agressions. Je pense que l'arsenal aujourd'hui, à la fois législatif et judiciaire, est assez complet. En revanche, on devrait s'interroger sur ce que ces violences nous disent, alors soit de l'état de la démocratie représentative actuelle, mais il faut aller un peu plus loin, parce que là on répondrait toujours hein, cette démocratie est vraiment désenchantée, elle est fatiguée. Moi je pense qu'il faut comprendre les raisons qui produisent aujourd'hui cette explosion des agressions. Il y a à la fois un contexte certes sanitaire, n'oublions pas qu'on sort quand même, enfin on sort, on est dans une période, et on peine à sortir d'une période où tout a été mis un peu sous couvert. Et donc il faut pas sous-estimer l'état psychologique dans lequel se trouvent beaucoup de citoyens. Ça ne légitime pas les agressions, mais il faut quand même tenir en compte de ce contexte. Deuxième élément, pour moi important, c'est qu'on est quand même depuis une dizaine d'années, dans l'espace public, on a atteint des formes d'hystérisation de l'espace public où il est presque impossible d'installer un débat. Et le débat, pour ces parlementaires qui ont l'habitude de recevoir dans leur permanence un certain nombre de personnes, disent aussi qu'aujourd'hui c'est compliqué parce que si on n'apporte pas de réponse, si on ne donne pas la bonne réponse, on doit anticiper des réactions violentes. Et du coup, ça pose quand même une question, parce qu'il ne faudrait pas voir que seuls les citoyens sont responsables de cette situation. Ça pose aussi une question sur la capacité qu'ont un certain nombre de représentants de ne pas ouvrir grande la boîte de cette question, pourquoi cette société est à ce point hystérisée. Et je terminerai en disant que je suis frappé parce que dans l'histoire récente politique au cours de la 5e République, c'est vrai qu'on n'a pas eu autant de cas de violence. Alors il y a eu des moments, parfois très localisés, mouvement syndical breton dans les années 70, les attentats en Corse à la fin des années 80. là aujourd'hui, mais on n'était jamais auprès de parlementaires. Ce qui est nouveau, les élus locaux, notamment les maires ou les conseillers municipaux, ont toujours fait l'objet de violences. Et d'ailleurs, ce qui est tout nouveau, c'est la capacité aujourd'hui qu'ont ces élus locaux à révéler. C'est pas simple de révéler un cas d'agression, même physique. Donc il y a probablement, on dit 1300 cas au cours de l'année 2021. Il faut faire attention, il ne s'agit pas de dire avant ça n'existait pas, mais l'évolution, elle est pas possible. La comparaison, elle est très difficile à faire parce que les cas dans le passé n'étaient pas forcément révélés par les victimes.
Jérémy Ward, je rappelle que vous êtes sociologue à l'INSERM, que vous travaillez sur les questions médicales, les questions de vaccins. Est-ce que vous souhaitez réagir soit sur ce qu'a dit Martial Foucault ou sur le témoignage de ce député Pascal Bois qu'on a entendu tout à l'heure?
Peut-être pour rebondir sur ce que disait Martial Foucault, il a vraiment raison d'insister sur, en tout cas, une certaine spécificité du contexte épidémique. Une des clés de lecture, peut-être, d'une partie de ces violences et plus généralement d'une partie de la radicalisation des prises de position sur la thématique vaccinale et sur la thématique du pass sanitaire vient aussi du fait que on a eu un certain nombre de privations de liberté qui peuvent être justifiées par l'épidémie, mais donc qui ont vraiment affecté très fortement le quotidien des personnes, énormes personnes qui ont été isolées, la vie sociale qui a été énormément perturbée, et pour des personnes qui ne perçoivent pas la Covid comme une maladie particulièrement grave, hein, ce qui est le cas d'une très grande partie de la population française, même parmi les vaccinés, conjuguer ça à des privations de liberté, d'une transformation du quotidien, on voit plus ses amis, on peut plus sortir comme on veut, etc. C'est le genre de choses qui peuvent être de nature à en faire basculer un certain nombre
de
la revendication vers les actions. Voilà, exactement.
Effectivement. On va repartir au Standard de France Inter, aller à Nantes, trouver Pilar. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir appelé le Standard. On vous écoute.
Oui, merci à vous, en fait. Je suis très contente d'écouter déjà le sociologue qui met les choses un peu en place, parce que c'est vrai que les violences vers les élus, comme on a entendu, c'est pas de maintenant, hein, c'est pas contre quel pas, ça fait très longtemps. Et c'est dommage, et c'est regrettable. Mais maintenant, je voulais dire que finalement, cette violence vient, je pense que la violence, elle vient de la haine, vient de la haine. Je pense que malheureusement, depuis juillet, je pense que moi, tant que citoyenne sage, on va dire, quand j'ai entendu le premier discours d'Emmanuel Macron, en disant « vous n'êtes pas obligés, mais vous ne pourrez pas faire ci, pas faire là », les soignants, vous allez perdre votre travail. Des choses comme ça, j'ai trouvé ça d'une violence inouïe, inouïe. Moi, je suis originaire du Chili et je me suis dit, mais attendez, même au Chili, on ne pourrait pas entendre un truc pareil. C'était tellement violent pour moi que finalement, a eu un effet contraire. J'avais dit d'accord, avec mon mari, on a dit d'accord, on va veiller, on va laisser faire vacciner, bon, voilà, on fait comme il faut. Mais en même temps, on était tellement contrariés, et moi profondément contrariée. Ce soir même, j'avais envie de pleurer, je me disais, on est devenu fou, absolument fou. Et ensuite, avec le temps, cette violence, je me rends compte, et encore ce qu'il a dit le sociologue, il est devenu encore plus dur parce qu'il n'y avait plus de place au débat. Des moments qu'on voulait dire quelque chose, qu'on n'était pas d'accord, c'était pas possible. Et dans les médias, pareil, tout le temps, la même chanson. Et dès quelqu'un qui voulait dire quelque chose, était passé par un monstre.
Oh, vous êtes un petit peu dur, Pilar, on donne quand même la parole sur l'antenne de France Inter.
Oui, j'entends beaucoup France Inter, hein, vraiment, hein, je suis fan.
Merci.
Mais, excuse-moi, je veux juste finir. C'est aussi une violence qui vient de l'autre côté. Là, ma belle-sœur, elle était avec des symptômes, elle n'est pas vaccinée. Elle est allée voir son médecin, et le médecin, il n'a pas reçu. Et le médecin, il a dit, comme ça, c'est un médecin près de Lyon, je vous emmerde, parce que Macron, il a dit qu'on devait vous emmerder. Donc, cette violence, donc, c'est une violence qu'on ne parle pas, et que finalement, je ne veux faire coupable à personne. Personne n'est coupable en quelque sorte parce qu'ils nous sont menés tellement à bout. Tout le monde est tellement à bout. Et c'est ça qu'il faut dire. Et ça, c'est la responsabilité de nous politiciens. Hein. C'est la responsabilité du gouvernement. Le fait que M. Véran, maintenant, ils veulent même pas enlever ce passe vaccinal, même si les cas de Covid diminuent, c'est bizarre quand même. Et les gens, ils peuvent se poser des questions.
Merci.
Les gens peuvent être mécontents quand même.
Merci Pilar. Je crois qu'on a bien compris votre message. Et je crois que Jérémy Ward a envie de réagir à ce que vous venez de dire sur l'antenne de France Inter. Jérémy Ward, c'est à vous. On espère qu'on n'aura pas de coupure parce que la liaison n'était pas terrible tout à l'heure. Allez, on vous écoute.
Alors, je suis vraiment désolé pour la liaison. Oui, je voulais rebondir là-dessus parce que ça souligne quelque chose qui est très important. C'est dans un contexte épidémique et surtout dans un contexte dans lequel les décideurs sont amenés à mettre en place des mesures en partie privatives de liberté, mettre en place des éléments de contrainte. Ce qui est très important, c'est la dimension de communication scientifique. À quel point est-ce que les justifications qui sont mises en avant soient vraiment centrées sur les arguments scientifiques, qu'il y ait une communication claire et transparente sur pourquoi est-ce que l'on fait, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance en France, on a une doctrine de la gestion de crise qui est très centrée sur projeter de la certitude, de l'autorité, avec l'idée que cela rassure le public. Et on a clairement vu les limites de cette doctrine-là depuis le début de l'épidémie. Surtout lorsque l'on a une crise qui dure, c'est d'autant plus important de revenir à de la communication scientifique et centrée sur les données. Et c'est sûr que dans un contexte dans lequel il y a la possibilité de renforcer une mesure comme le pass sanitaire, le risque de ne pas centrer la communication sur les éléments scientifiques, c'est aussi de créer de la polarisation, d'avoir l'effet un peu opposé sur les personnes qui sont réticentes à l'idée de se faire vacciner.
Merci Jérémy Ward. Martial Foucault, si vous pouvez nous faire une réponse pas trop longue, parce que je vois que l'heure tourne et il y a énormément d'appels au standard de France Inter.
Alors je vous promets de ne pas entrer dans un tunnel, mais il y a trois éléments. Je vais être très rapide. Premièrement, ce qu'a décrit Pilar, pour moi, ça correspond à une situation qui n'est pas propre à la France. J'appellerais ça un peu le malaise de la modernité. C'est-à-dire qu'au cours des 50 dernières années, toutes les démocraties ont accédé à cet état que certains sociologues appellent la post-modernité, l'affirmation de soi, l'autonomie, mais aussi l'individualisation des choix. Maintenant, on n'a plus besoin d'avoir des hiérarchies, qu'elles soient politiques, par le passé religieuses, pour dicter les comportements. Et ce que décrit Pilar est très intéressant, parce que c'est une incompréhension. On a accédé à cette individualisation et on nous demande maintenant, quelque chose qui est très vertical, on nous impose des choix qui vont écorner nos libertés. Et donc, ça crée ce mouvement d'incompréhension. Le deuxième élément, je dirais que dans le droit fil de ce que vient de dire Jérémy Ward, c'est-à-dire que on est aussi dans un pays dans lequel la question de la confiance vis-à-vis des scientifiques a profondément diminué depuis 2 ans. On le voit au fil des enquêtes. Et pour moi, ça introduit une notion très importante, et surtout dans ce contexte présidentiel, c'est-à-dire que le niveau de défiance, on l'a dit depuis des années, de défiance des citoyens vis-à-vis des élus. D'ailleurs, il ne faut pas regarder que dans ce sens. Il faut peut-être aussi s'interroger du niveau de confiance des élus vers les citoyens. Et je crois qu'on comprendrait un certain nombre de comportements aujourd'hui. Mais donc, dans cet océan de défiance, évidemment, quand on traverse une crise comme ça, on est dans un pays où la confiance vis-à-vis des autres, le besoin d'interaction sociale est relativement faible. Eh bien, quand vient un moment compliqué où on nous impose des choix, quand on n'a pas confiance dans les autres, on ne peut pas avoir confiance dans des mesures aussi verticales. Et puis, je termine, c'est très court. Ces contestations, cette radicalité, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, vis-à-vis du pass sanitaire puis du pass vaccinal, c'est-à-dire que l'ensemble des députés de la majorité qui ont été principalement visés, on s'adresse pas tant à cette mesure sanitaire, on s'adresse à Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'ils sont quand même les porte-voix d'une majorité et d'un exécutif qui est aujourd'hui contesté.
Alors sans doute pour les politiques, mais il y a aussi le cas des soignants, il y a le cas des médecins. Cette émission s'intitule « Pourquoi tant de haine ?» et il se trouve que nous sommes en ligne avec la professeure Karine Lacombe. Bonsoir Karine Lacombe.
Oui, bonsoir.
De mémoire, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Vous avez fait l'objet de menaces depuis le début de cette crise sanitaire. Comment ça s'est manifesté et comment est-ce qu'on le vit ?
Écoutez, alors ça s'est manifesté initialement par des appels dans le service où je travaille et puis beaucoup de lettres anonymes. Ensuite un harcèlement par email sans qu'il y ait initialement de violence physique directe, mais beaucoup de violences verbales, au téléphone ou par mail ou par courrier, visant également ma famille, me disant qu'on m'avait repéré, qu'on connaissait mon trajet, etc. Au point que la direction de la PHP est venue voir si j'avais besoin d'avoir une protection pour rentrer chez moi à l'époque. Donc moi, ça me semblait complètement inconcevable, inimaginable que ça puisse m'arriver un jour. Et puis en fait, ce dont je me suis aperçue, c'est que toutes ces menaces étaient très cycliques. Et au moment de la montée d'angoisse liée aux nouvelles vagues Covid, elles reprenaient. Et puis dernièrement, alors à l'occasion du pass sanitaire en juillet-août, donc à partir du moment où les terrasses ont rouvert et où moi, puisque j'étais vaccinée, j'ai pu aller déjeuner en terrasse pendant... Voilà, je me rappelle fin août, là j'ai eu des menaces directement dans la rue, on est venu m'apostropher à table, voilà, en me menaçant de me casser la figure, etc., en m'insultant. Et c'est vrai que c'est bon, même si j'ai pris du recul au bout quand même de 2 ans d'insultes, c'est tout le temps une situation qui nous met extrêmement mal à l'aise, parce qu'on ne sait jamais finalement jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'il va y avoir un vrai passage à l'acte, hein, des paroles à l'acte physique? On est toujours un peu sur une espèce de crête.
Et vous pensez que la réponse, quelle doit-elle être, Karine Lacombe, parce que c'est pas faute d'expliquer l'utilité du vaccin? On en arrive à être à court d'arguments, j'imagine.
Là, on est complètement à court d'arguments. Maintenant, moi, je refuse même de parler du sujet parce que je sais que, quels que soient les arguments qu'on déploie, que l'on parle calmement, que l'on parle avec plus de virulence, que l'on essaie d'être pédagogique ou que l'on fasse passer un message d'autorité, la réponse est toujours la même. Ça fait 2 ans qu'on est très nombreux soignants à essayer de faire preuve de pédagogie. Et on a beau y avoir passé énormément de temps, que ce soit directement à l'hôpital, par les médias, par les écrits, etc., le message ne passe pas. Et même en hospitalisation avec des patients qui sortent de réanimation, avec lesquels on essaie d'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi il est important qu'ils fassent ensuite leur rappel, on arrive, je dirais, une fois sur deux, face à un mur de personnes qui ne veulent pas remettre en cause leurs convictions profondes. Mais parce que je pense que les personnes qui sont qui ont une vraie responsabilité là-dedans, c'est pas forcément ceux qui subissent tout ça, mais c'est ceux qui promeuvent ces mouvements de désinformation. Et c'est là où il y a les vraies responsabilités.
Merci mille fois pour votre témoignage, professeur Karine Lacombe, ce soir sur l'antenne de France Inter. Jérémy Ward, sur cette question de la responsabilité, ce que dit Karine Lacombe, quand même des gens sortent de réanimation et ne sont toujours pas convaincus de l'utilité de la vaccination, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a effectivement des gens qui ont une part de responsabilité, de par leur message?
Alors, la question de la responsabilité, c'est pas vraiment une question pour un sociologue. C'est plutôt du domaine de l'éthique, du droit, etc. Donc, en tant que sociologue, ce que je dirais surtout, c'est que effectivement, clairement, on voit l'effet de la production de discours critiques sur les vaccins. On a vu de nouveaux acteurs émerger pendant la période du Covid, hein, des nouvelles personnes avec des nouveaux registres critiques. On a eu beaucoup d'arguments autour des vaccins ARN, et puis on a les arguments qui évoluent au fur et à mesure, parfois en lien avec la réalité scientifique, complètement déconnecté de celle-ci. Clairement aujourd'hui, les outils pour lutter contre la circulation de ces informations fausses, ils sont très limités. La question de pouvoir attaquer les personnes parce qu'elles diffusent des informations fausses qui peuvent avoir des conséquences gravissimes sur la santé du public, c'est une question qui est effectivement aujourd'hui un des problèmes essentiels de la régulation de la parole publique, notamment à l'ère des réseaux sociaux où c'est assez facile de produire du discours de manière anonyme. Mais en même temps, ce que l'on voit, c'est que les principaux acteurs qui diffusent des informations fausses sur les vaccins, ce sont des personnes qui parlent en leur nom, qui sont identifiables, que l'on connaît.
Effectivement. Nous sommes en ligne à présent avec le maire de Ledoche, c'est une commune des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir Bernard Orisset.
Oui, bonsoir.
Je suis désolée de vous prendre aussi tard, mais c'est vrai qu'on a été un petit peu pris par le temps avec de nombreux témoignages. Vous avez subi une agression qui, je pense, n'a absolument rien à voir avec avec la situation sanitaire actuelle. Mais je voudrais savoir ce que ça vous évoque, cette multiplication des actes d'intimidation, de menaces à l'égard des élus, du fait justement de cette situation.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de tensions actuellement, hein. Tout le monde est très tendu, les parents qui s'en prennent aux élus, les élus qui ne savent plus quoi faire, hein, parce qu'aujourd'hui, ce qui est vrai aujourd'hui n'est plus vrai le lendemain. Donc pour nous, c'est très difficile à gérer, à expliquer aux parents, à expliquer à la population. Voilà, donc moi j'ai été agressé, mais pas pour un problème sanitaire. J'ai été agressé pour l'incivilité sur ma commune.
Et ça, malheureusement, c'est effectivement très fréquent. Merci Bernard Orisset. Martial Foucault, vous avez beaucoup travaillé sur cette question des agressions à l'égard des élus locaux. Et effectivement, c'est un problème global au-delà de cette simple crise, enfin de cette crise sanitaire actuelle.
Oui, on retrouve les mêmes formes, c'est-à-dire souvent des menaces, des intimidations, des agressions. Alors, intuita personae ou aussi vis-à-vis du bien commun, de la commune, du village, dégradation du mobilier urbain. Et aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas une cause qui explique une famille d'agression ou une famille de vandalisme. Donc les maires sont très souvent, et j'insiste vraiment sur les maires, ils sont totalement, comme vous disiez, non pas à court d'arguments, mais dépourvus de réponses parce que ils sont certains que prendre le temps d'expliquer ne suffira pas à demain voir de nouveaux déchaînements de violence à leur endroit, quand bien même, ils n'ont pas toujours les compétences pour répondre aux sollicitations, aux demandes sociales de la part de leurs administrés.
Voilà, je voudrais quand même juste citer Pierre, des appels qui nous arrivent encore au Standard de France Inter. Pierre qui condamne les violences, mais comprend la colère de ses concitoyens. Sylvie, qui est vaccinée par défaut, qui comprend la violence. Et ça, effectivement, il y a eu un sondage très récent qui a été fait, qui montre qu'il y a une forte partie des Français qui comprend les raisons de la colère sans forcément les justifier. Il faudra évidemment qu'on refasse une émission parce qu'on n'a pas pu prendre tout le monde ce soir. On vous remercie mille fois tous de nous avoir appelés. Merci Jérémy Ward, merci mille fois. Martial Foucault pour votre participation.